Bonjour, bienvenue dans Politique. Notre invité aujourd'hui, Henri Guénot. Bonjour Henri Guénot.
Bonjour.
Vous êtes ancien député Les Républicains des Yvelines, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy pendant son quinquennat. Vous avez également été commissaire général au plan de 1995 à 1998 et vous avez publié l'an dernier aux éditions du Rocher, De Gaulle, le nom de tout ce qui nous manque. Alors ça y est, on tient la coupable, c'est la bureaucratie qui est la cause de tous nos malheurs et de toutes nos lenteurs. C'est à cause d'elle si la campagne de vaccination a démarré trop timidement en France, à cause d'elle encore si le pays a manqué de masques au printemps. Alors, il y a à première vue un paradoxe à voir réémerger cette critique d'une administration trop tatillonne dans un pays où, depuis des années, il n'est pourtant question que de simplification, d'agilité, de réduction des coûts et d'efficacité. Paradoxe, à moins que les deux phénomènes soient directement liés, ce qui étonnamment donnerait raison à celles et à ceux qui défendent un État fort, stratège et interventionniste. D'ailleurs, l'État n'a-t-il pas démontré sa capacité à la résilience depuis un an? On est donc financièrement les plus fragiles à surmonter les effets de la pandémie. Alors est-il vraiment aussi mal en point qu'on le dit? Et n'est-ce pas davantage d'une nouvelle salve de décentralisation dont le pays a besoin désormais pour affronter les prochaines crises? Et bien, c'est autour de ces questions que nous allons discuter, Henri Guénot, en votre compagnie, pendant la prochaine demi-heure. Pour commencer, j'aimerais savoir comment est-ce que vous qualifiez la crise sanitaire et surtout la gestion de cette crise par le gouvernement?
Alors, la crise sanitaire en elle-même est une catastrophe pour le monde entier. J'observe quand même que probablement l'Occident va sortir de cette crise sanitaire très affaibli par rapport à l'Asie. Voilà. Donc il y aura probablement à la suite de cette crise un basculement important du point de vue géopolitique, géoéconomique, dans les rapports de force et de puissance dans le monde. Voilà, je pense que c'est le premier constat.
Pour quelle raison? C'est-à-dire parce que les pays occidentaux ont montré des défaillances qui vont leur nuire ensuite pour négocier à l'échelle internationale?
Oui, je crois que les pays occidentaux ont montré beaucoup de défaillances, alors qu'ils tiennent aussi à l'état de leur société et puis à l'état de leurs États. On critique beaucoup l'État aujourd'hui en France pour critiquer, je parliez de la décentralisation, mais on a dit, allez, regardez les États décentralisés, fédéraux, ça travaille beaucoup mieux, ils gèrent beaucoup mieux cette crise. Quand vous regardez la carte des institutions en Occident, en tout cas, ça vous saute pas aux yeux. Parce que, on a dit l'Allemagne dans la première vague, on voit bien que dans la deuxième vague, c'est beaucoup plus compliqué. Mais admettons, le Royaume-Uni est assez décentralisé, parce qu'il y a le Pays de Galles, il y a l'Angleterre, il y a l'Écosse, etc. Pas une preuve d'un grand succès. Les États-Unis, c'est un pays fédéral. Le Brésil, c'est un pays fédéral. L'Espagne est un pays quasi fédéral. L'Italie est un pays extrêmement décentralisé, avec des régions très, très puissantes. On ne peut pas dire qu'ils aient fait des étincelles dans cette crise. Donc les raisons sont ailleurs.
En revanche, ça veut dire que pour vous, en tout cas, on ne peut pas se servir de cette crise pour analyser quels sont les régimes ou les systèmes politiques qui ont le mieux fonctionné?
Non, parce qu'à l'inverse, on peut se dire que les États ne sont pas très décentralisés en Asie. Je laisse la Chine de côté, qui est un pays totalitaire, mais ils ont plutôt mieux réussi que les États occidentaux. Je crois qu'il y a une crise très profonde en Occident, de toutes les démocraties occidentales, de toutes les sociétés occidentales et de tous les systèmes institutionnels occidentaux. Et puis peut-être aussi une crise des élites occidentales.
Et la France, alors justement, dans cette crise, comment elle s'est comportée pour vous, Henri Guénot?
La France s'est comportée de un peu de la même façon que les autres, c'est-à-dire qu'elle a très très mal géré cette crise. Enfin, la France, les pouvoirs publics, les autorités sanitaires ont mal géré cette crise. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il est encore trop tôt, à mon sens, pour faire un bilan rigoureux de tout ce qui s'est passé. On n'a pas les données, enfin, on manque beaucoup de données. Je suis frappé par le fait qu'on n'arrive pas à reconnaître ce qu'on ne sait pas. Voilà. Dans cette affaire, on n'a pas de données pour savoir, par exemple, si on se contamine plus dans tel ou tel lieu que dans tel autre. On n'a pas de données qui permettent de dire que telle mesure a été plus efficace que telle autre. Tous gens qui ont essayé de trouver des corrélations entre les mesures prises et, l'évolution du virus n'y sont pas parvenues jusqu'à présent. Donc, on ne sait pas si, par exemple, le confinement, ça, au fond, ça tue ou ça abîme plus de vie que ça n'en sauve. Voilà, on peut avoir des intuitions. Mais tout ça, d'ailleurs, nous a amené à affaiblir à la fois l'autorité des pouvoirs publics, l'autorité de l'État, et aussi l'autorité de la science médicale. Tellement de gens sont venus expliquer que ceci ou cela était scientifique et donc ne méritait pas de débat. On se rappelle de l'exemple du Lancet sur la hydroxychloroquine, bon, alors qu'il n'y a pas de fondement. Je veux dire, la première règle de la rigueur scientifique, c'est de reconnaître qu'on sait ou qu'on ne sait pas ou qu'on ne sait qu'à moitié. Voilà, tout ça n'a pas été ni la communication, ni le débat public, ni les décisions prises n'ont été bonnes. S'agissant de l'État, le premier manquement a été apporté sur la question logistique. Voilà. Une gestion de crise, indépendamment de sa nature, qu'elle soit un tremblement de terre, que ce soit une épidémie, grands incendies, la gestion de crise, c'est d'abord une gestion logistique. C'est-à-dire qu'il a manqué, depuis le début, d'attacher une importance suffisante à la logistique, de créer une vraie gestion capable de gérer la logistique de crise, et nous y sommes toujours, nous l'avons été... Compte tenu de ce qu'a été le passé, hein, avec les masques, avec les tests, on voit bien que...
Et pour vous, avec le vaccin, on est dans la même
configuration. Sur la logistique, je ne parle pas de la stratégie qui, à mon avis, n'était défendable, mais je pense, on voit bien que finalement, il y a un problème logistique, encore une fois.
Alors, Jean Castex a tenu une conférence de presse avant-hier, en compagnie notamment du ministre de la Santé, Olivier Véran, et il a répondu à certaines critiques, justement, lui reprochant des lenteurs et des ratés dans cette campagne de vaccination et dans la logistique, justement.
Je pense avoir été très clair, monsieur, je le répète, peut-être en écho à vos interrogations, en tout cas à celles que vous relayez, le patron du déploiement de la stratégie vaccinale au nom de l'État, avec l'Agence régionale de santé, c'est le préfet de département. Il y a un pilote dans l'avion. Et vous savez, j'ai souvent parlé du couple maire-préfet, c'est pas la première fois, les maires, ils connaissent le préfet de leur département, ce sont des gens pragmatiques, qui savent faire, on fait le pari de la confiance, ils vont travailler ensemble, et vous verrez, progressivement, alors il y a, évidemment, je vous fais toute confiance là-dessus, ici ou là, il y aura sûrement un loupé, un raté, ça, je ne doute pas que nous pourrons le corriger, car il ne sera pas passé sous silence. Ça, c'est la certitude que j'ai.
Voilà, Jean Castex, c'était avant-hier. Henri Guénaud, je ne vais pas vous demander si vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce qu'on a bien compris que ça n'était pas le cas. Mais ces défaillances que vous avez pointées, est-ce que vous considérez qu'elles sont liées, on va dire, à ce gouvernement en particulier, ou bien est-ce qu'elles ne révèlent pas malgré tout des défaillances dans l'organisation de ce qu'est l'État aujourd'hui en France?
Si, mais je voudrais repartir de ce que vient de dire Jean Castex. C'est-à-dire, il dit le préfet chargé du redéploiement. Mais il faut bien comprendre quel est le rôle du préfet dans l'organisation de l'État central français, qu'on appellera jacobin, napoléonien, gaulien, tout ce qu'on voudra. C'est l'agent de la déconcentration. C'est-à-dire, non pas de la décentralisation, mais de la déconcentration. C'est-à-dire celui qui traduit qui adapte au plus près du terrain les décisions qui sont prises par le gouvernement, les autorités de l'État central. Bon. Mais ce n'est pas lui qui définit la politique nationale, ce n'est pas lui qui définit la gestion logistique au plan national de la crise. C'est d'ailleurs aucun pays ne fait ça, même les plus décentralisés. Donc il me semble qu'il y a on reste quand même dans une analyse très superficielle du fonctionnement de l'État et de la manière de gérer les crises de ce genre.
Et une analyse justement très jacobine, c'est-à-dire on voit bien à quel point, et en tout cas c'est...
Non, parce qu'il manque... Vous ne pouvez pas reporter sur le préfet, dans une analyse jacobine ou gaulienne, parce que l'insuffisance des décisions à l'échelon central sur le préfet, qui est, encore une fois, il est là pour adapter des décisions qui sont prises, mais si, qui sont prises ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'est pas responsable des transports de vaccins. Il n'est pas responsable des marchés passés avec les transporteurs. Il n'est pas responsable de l'articulation de tous les acteurs, parce que ça demande des textes, parce que ça demande des décisions qui sont des décisions qui relèvent de l'État, des décrets, des circulaires, des arrêtés, etc. Bon,
donc, oui, mais justement, Henri Guénaud, c'est-à-dire pour poursuivre sur cette idée, si les décisions que les préfets sont censés appliquer sur le terrain sont des décisions qui viennent de l'État, c'est le cas, et que ces décisions semblent mauvaises. Est-ce que ça n'est pas...
On va dire du gouvernement.
Alors du gouvernement.
Voilà, des administrations centrales. Voilà.
Est-ce que ça n'est pas peut-être parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de délibérations, et est-ce que ça n'apporte pas de l'eau au moulin à ceux nombreux, notamment parmi vos camarades politiques ou anciens camarades, enfin chez les Républicains, alors il y a Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Renaud Muselier, qui disent « Eh ben, on ne nous consulte pas suffisamment, nous, les élus locaux, les élus régionaux, et s'il y avait eu davantage de concertation, si on nous laissait un petit peu plus les mains libres, on ne serait pas dans cette crise-là. » Est-ce que ça n'est pas une vraie faille de l'État centralisateur ?
D'abord, ce n'est pas la même chose, la concertation et le pouvoir de décision local. C'est-à-dire qu'effectivement, ils se plaignent du manque de concertation. Moi, je suis mal placé pour savoir comment a été organisée de l'intérieur la concertation. Ça, la concertation, elle est nécessaire. Je veux dire qu'elle est nécessaire avec les élus, elle est nécessaire avec les autorités sanitaires, etc. Bon, avec les représentants des médecins généralistes. Concertation est nécessaire. Mais là, entre se concerter avec et déléguer les pouvoirs de décision aux élus locaux ou à des autorités indépendantes, il y a une différence de nature. Bon, donc moi je crois que c'est pas du tout la problématique. D'abord, premièrement, l'État central qu'on appelle jacobin, qui aujourd'hui paraît de tous les défauts et de tous les maux, ça fait 40 ans qu'on le détruit, ça fait 40 ans qu'on le démolit et on s'étonne qu'il ne marche plus. Bon, la vérité, c'est que nous avons besoin non pas de liquider encore un peu plus l'État central pour répartir ses compétences entre les principautés, enfin les grandes principautés qu'on a créées dans le quinquennat précédent. Ça mène toujours à la même chose en France, en tout cas, parce que la France, elle s'est faite ainsi, parce qu'elle est ainsi, constituée. Elle est constituée d'un puzzle de très grande diversité, anthropologie, culturelle, etc. Et elle ne tient que lorsque l'État a une autorité, lorsqu'il est efficace, lorsqu'il a un prestige. Bon, voilà. Donc l'État, il faut pas le jeter avec l'eau du bain des défaillances de l'actuel. Il faut le reconstruire. Ça, c'est la première chose.
Mais ce travail de démolition que vous évoquez, Henri Guénaud, vous y trouvez une autre cause dans un entretien récent que vous avez donné au Figaro avec Arnaud Montebourg, entretien très intéressant, dans lequel vous dites notamment ceci. Ce que nous payons au prix fort, ce sont aussi les dégâts causés par une idéologie néolibérale qui, depuis 40 ans, oui, toujours dans les 40 ans, ne regarde toute dépense publique que comme un coût à réduire à tout prix. Mais ça, c'est une phrase qui m'a fait un petit peu sursauter de votre part, Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, qui, Nicolas Sarkozy, quand il est à l'Élysée, met en place ce qu'on appelle la RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques, qui visait essentiellement à réduire la dépense publique. Donc est-ce que vous n'avez pas en tant qu'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, aussi une responsabilité dans cette démolition de l'État ?
Bien que je n'ai pas exercé des fonctions décisionnaires dans ce cadre, et que j'ai soutenu non seulement Nicolas Sarkozy, mais un certain nombre de gouvernements précédents, j'assume parfaitement les erreurs qui ont été faites. Hein. Après tout, on me dira, vous n'avez qu'à partir, etc. Bon, donc, mais il faut bien voir...
Est-ce que vous parlez d'erreurs ?
La RGPP, c'est très intéressant, parce que au départ, il ne s'agissait pas de raboter les finances publiques. Au départ, il s'agissait de faire le tri entre ce qui marchait bien, ce qui marche pas. C'était des politiques. Hein. C'était prendre des politiques les unes après les autres et dire, bon, ça marche bien, ça marche pas bien. Ce qui marche pas bien, ben, on le supprime ou on le réforme. Ce qui marche bien, on le garde. Et c'est devenu, au bout de quelques semaines, par l'effet d'entraînement de cette idéologie dominante qui touche tout le monde, qui touche la droite, la gauche, les parlementaires, enfin une partie des parlementaires, de la haute fonction publique, c'est devenu le rabot. Voilà, c'est devenu le rabot. Il y a une espèce, c'est contre ça qu'il faut lutter. C'est pas la peine de chercher aujourd'hui les responsabilités chez les uns ou chez les autres. Tous les gouvernements ont fait ça. tous. Ça commence, commençons dans les années 80, donc 80-82, c'est le lendemain qui chante, et puis ensuite, il y a le tournant de la rigueur, et depuis, on ne se sort pas de cette façon de regarder les choses. Alors vous me direz, mais regardez, les dépenses publiques, elles ont explosé. Mais elles ont explosé pourquoi? Il faut aller chercher les causes profondes. Elles ont explosé parce que les pays occidentaux ont décidé d'abord de mettre en concurrence leurs salariés, leurs travailleurs, leurs entrepreneurs, etc., directement avec ceux des pays qui étaient moins développés, qui n'avaient pas de protection sociale, etc. Bon, ça a désorganisé complètement nos sociétés, ça a créé des fractures terribles, pas seulement en France, pas seulement en Europe, regardez les États-Unis. Bon, et donc, plus vous avez de désordre dans la société, plus vous avez de victimes, et plus l'État doit venir au secours des victimes, et c'est ça la dépense. Et chaque fois qu'on fait ça, ça entraîne en retour des réformes, des politiques de rigueur, des politiques d'austérité, qui mettent encore plus de désordre dans la société, et c'est un cercle vicieux. Mais c'est que l'État se désorganise au fur et à mesure que la société se désintègre.
Oui, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas dans la logique. Alors, il y a cette politique du rabot, hein, dont vous dites qu'on la trouve aussi bien à droite.
Donne un exemple. La campagne de 2012, il y a un candidat qui répond à une infirmière dans une ville, c'est passé sur tous les écrans de 2017, pardon.
2017.
Ouais. Tous les écrans de télévision. L'infirmière lui dit, on a un manque de moyens, on n'en a plus, et le candidat répond, je vais quand même pas augmenter la dette de la France. Voilà. Mais maintenant, on a le résultat. Alors, ça n'a pas commencé en 2017, hein, ça a commencé bien avant. Voilà, le résultat, il est là. On a fait les ARS. Alors maintenant, on dit les ARS, on va faire la politique sanitaire.
Agence régionale de santé.
Mais non, mais les agences régionales de santé, elles ne sont pas faites pour faire de la politique sanitaire. En réalité, elles sont faites pour faire du rabotage des dépenses de santé. On appelle ça rationalisation. Ce n'est pas du tout de la rationalisation, c'est du rationnement.
Oui, mais c'est là que j'arrive pas à comprendre le lien qu'il peut y avoir. Enfin, en tout cas, comment on peut faire coexister, Henri Guénaud, cette politique de rabot, de restriction budgétaire, et cet autre phénomène qui, alors là, est très critiqué en ce moment à la faveur de la gestion de cette crise sanitaire, qui est l'inflation des normes et le fait que, par exemple, pour se faire vacciner, il faille attendre tant de jours, il faille passer par tout un tas de procédures. C'est-à-dire, comment il y a à la fois une administration qui aurait moins de moyens et qui serait en même temps beaucoup trop tatillonne? Non, ça paraît contradictoire.
Elle a à la fois moins de moyens, plus de bureaucratie. Pourquoi? Parce que quand vous essayez de gérer l'État comme une entreprise alors que l'État remplit des missions que les entreprises ne peuvent pas remplir. Bon, et que vous développez toute une bureaucratie pour surveiller ceux qui dépensent.
Mais ça, c'est pas géré comme une entreprise. Les entreprises, elles ont plutôt montré leur agilité pendant la crise.
Oui, c'est ça. Oui, vous avez les plus grandes entreprises traditionnelles américaines et autres. Vous passez plus de temps à faire des reporting et à répondre à des exigences de réduction des coûts. Alors, elle commence beaucoup à s'en éloigner, mais vous savez, le fameux cost killer anglo-saxon, il a détruit plus d'entreprises qu'il n'en a sauvé. Bon, eh bien, vous pouvez pas traiter l'État de cette façon. Vous devez pourchasser les gaspillages, mais l'idée que on rabote les coûts et que toute dépense publique est un coup net pour la société, détruit l'État. Voilà.
Mais c'est ça qui crée la bureaucratie?
Bon, ce qui est la bureaucratie, c'est que oui, petit à petit, enfin, des agences régionales de santé, par exemple, c'est de la bureaucratie. Ça crée une partie de la bureaucratie, c'est-à-dire la bureaucratie qui surveille ceux qui dépensent et qui finalement, ça finit par coûter plus cher. Hein, D'autre part, vous avez un deuxième phénomène qui tient aussi à cette idéologie anti-État. Comment on veut supprimer le pouvoir discrétionnaire de la politique? Comment on veut limiter le volontarisme de l'État, dont on se méfie, eh bien, c'est une des versions néolibéralisme, eh bien, il faut mettre toute la société en pilotage automatique. C'est-à-dire qu'il ne faut plus que le politique vienne prendre des décisions. Alors on multiplie les autorités indépendantes, et puis on est obligé, si vous voulez mettre en pilotage automatique, il faut tout prévoir, tout codifier. Tout prévoir à l'avance, tout régler.
Oui, mais
une masse de réglementation, c'est le paradoxe du néolibéralisme, c'est qu'il crée une masse de réglementation et de normes pour pouvoir mettre la société en pilotage automatique.
Est-ce que c'est pas un procès un peu injuste là que vous faites au gouvernement au chef de l'État, Emmanuel Macron?
Ce gouvernement en particulier. Hein,
oui, mais juste pour vous donner un exemple, toujours en restant sur cette crise sanitaire, Emmanuel Macron, au début de la crise, évoque le fameux quoi qu'il il en coûte. L'État était quand même présent à travers, par exemple, les dispositifs de chômage partiel pour agir, pour vraiment être aux commandes. Il y a l'état d'urgence sanitaire, alors qui dure depuis des mois et puis qui va se prolonger au moins, semble-t-il, jusqu'à fin juin. Ça doit être décidé en Conseil des ministres la semaine prochaine. Est-ce que là, l'État n'a pas démontré justement sa capacité à remettre du politique dans la gestion de crise?
Pas qu'en France, hein, je veux dire, les autres aussi ont fait des efforts. On regarde, on constate d'ailleurs maintenant que en montant par rapport au PNB, etc., les autres ont fait des efforts parfois beaucoup plus importants que nous. Enfin, certains moins, d'autres plus. Bon. Mais tout le monde l'a fait. Pourquoi? Parce que l'État a pris des décisions. L'État vous interdit de produire, vous interdit de travailler. Mais l'État, il doit vous indemniser parce que sinon tout s'effondre. Voilà, donc c'est pas une politique que j'appellerais volontariste. Hein. La politique volontariste, c'est de dire je vous interdis de produire. Ça, c'était la volonté de l'État. Ben, vous devez indemniser. Encore, on n'est pas allé au bout parce qu'on appelle ça une aide de l'État, mais c'est pas une aide de l'État. Si je vous interdis de travailler, je dois vous indemniser. Ça s'appelle une indemnisation et pas une aide. Bon, et c'est, ça donne pas le même résultat.
Mais est-ce qu'en prenant cette décision d'interdiction, l'État et ceux qui gouvernent ne démontrent pas qu'ils ont une autorité, justement? Est-ce que c'est pas la preuve que leur autorité existe toujours?
Non, mais ils ont la capacité d'être autoritaire, c'est-à-dire de vous interdire.
C'est pas la même chose, autorité et autoritaire.
Absolument, c'est pas du tout la même chose. Je trouve que d'une façon générale et en Occident en général, on n'a pas fait assez confiance non plus aux citoyens, c'est-à-dire qu'on a joué l'autoritarisme, on a décidé que si vous sortiez, obligé à signer une attestation pour sortir de chez soi sous peine de 135 euros d'amende, c'est quand même quelque chose de fou. Si on vous avait dit ça il y a 2 ans, vous auriez dit c'est pas possible, enfin c'est impensable. Bon, et ben ça s'est fait, mais ça c'est de face à cet autoritarisme, c'est-à-dire que je crois que dans cette façon de procéder, on a abîmé l'autorité de l'État. Voilà. Mais on a abîmé l'autorité de l'État parce que, d'abord, l'État n'était pas prêt à affronter ce genre de crise. Hein. C'est un problème très profond et structurel qui vient du fait que nos sociétés avaient décidé, tous nos États, nos gouvernements, etc., avaient décidé qu'un certain nombre de choses ne pouvaient plus nous arriver. Hein. Ça, c'est la bêtise de l'Occident, la plus grande sottise. Donc, ne peut plus nous arriver. La guerre, ça ne peut pas nous arriver. On peut diminuer les budgets militaires. La crise des crises sanitaires, enfin les épidémies, ça ne peut plus nous arriver, c'est pour les pays du tiers-monde, etc. Bon, voilà. Et puis ça nous arrive. Vous savez, c'est comme ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. L'idée que nos institutions ne pouvaient plus être ébranlées, ne pouvaient plus être éventuellement renversées du jour au lendemain par un mouvement populaire inattendu, on pensait que ça ne pouvait plus nous arriver. C'était un danger qui n'existait plus. Eh bien si, tout ce qui est arrivé à nos prédécesseurs, aux générations précédentes, tout ce qui leur est arrivé peut nous arriver. Voilà. Et ça, c'est une leçon que nos élites européennes et occidentales, notamment depuis la chute du mur de Berlin, ont du mal à apprendre. Enfin, c'est c'est terrible. C'est ça le vrai problème. Il est dans la tête, dans l'idéologie, dans les idées. Vous savez, Keynes disait, pas tant les intérêts qui mènent le monde que les idées. Eh bien voilà, nous avons un problème avec les idées, et en particulier l'idée que nous nous faisons de l'État, de la politique, de la puissance publique et de ses responsabilités.
Vous avez évoqué les institutions, Henri Guénaud. Je rappelle que vous avez publié l'an dernier aux éditions du Rocher De Gaulle, le nom de tout ce qui nous manque. De Gaulle, qui est le père des institutions de la Ve République, avec Michel Debré. Et l'idée, justement, à l'époque, c'était de sortir du désordre et de rétablir peut-être l'autorité de l'État à travers sa constitution. Mais est-ce que cette lecture des institutions n'a pas un peu vieilli? Eh bien, c'est le thème de votre chronique cette semaine, Antoine Dulcert.
Oui, Hervé, cette restauration du rôle du président de la République était au cœur de la vision gaullienne du pouvoir. Charles de Gaulle avait d'ailleurs annoncé son programme bien avant 1958, dès 1946, dans un discours qui est resté célèbre, le discours de Bayeux. De Gaulle donne sa vision de ce que doit être, selon lui, le rôle du chef de l'État dans l'équilibre institutionnel.
C'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif. À lui, la charge d'accorder les nécessités générales concernant le choix des hommes avec l'orientation qui se dégage du Parlement
Et cette réflexion gaullienne ne venait pas de nulle part, elle s'appuyait notamment sur la lecture des thèses d'André Tardieu. Tardieu était un responsable politique de premier plan dans les années 1930, plusieurs fois ministre et président du Conseil. Face à l'instabilité et donc à l'impuissance de la Troisième République, il préconisait dès 1936 de restaurer le rôle du chef de l'État, qui devait être selon lui le détenteur du pouvoir exécutif. Et c'est bien le sens des réformes qui ont été menées en 1958. Avec ce résultat, aujourd'hui, le président de la République française détient des pouvoirs énormes en comparaison avec ses homologues des grandes démocraties européennes. Mais des problèmes graves persistent. Crise de la représentation, évidemment, crise de l'État, dont on parle beaucoup depuis la crise sanitaire. D'où cette question, est-ce que cette restauration de l'exécutif, théorisée depuis Tardieu dans les années 30, était vraiment la solution miracle aux problèmes de notre pays? Eh bien, cette question, je l'ai posée justement à un spécialiste de Tardieu, l'essayiste Maxime Tandonné.
Le système politique tel qu'il est actuellement en France n'aurait pas du tout convenu à André Tardieu. Il dénonçait le despotisme du Parlement, mais il pourrait aussi bien dénoncer le despotisme présidentiel, en gros, hein, c'est-à-dire la confiscation de tous les pouvoirs par une seule figure présidentielle. C'est pas du tout ça qu'il voulait. Lui, ce qu'il voulait, c'était un équilibre des pouvoirs. Il voulait qu'il y ait un exécutif fort, s'appuyant sur le peuple, et un législatif qui soit dans son rôle, c'est-à-dire le contrôle de l'exécutif et le vote de la loi. Mais il n'était pas du tout pour un système où l'ensemble des pouvoirs est confisqué par l'Élysée, et il mettait fortement en garde contre cette tentation aussi. Lui, c'était la volonté de recherche d'un équilibre entre le Parlement, l'exécutif et le peuple, une sorte de relation triangulaire sur laquelle devait se fonder la République.
Voilà, c'était Maxime Tandonné qui fut aussi conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Et pour prolonger ses réflexions sur les thèses de Tardieu, on renvoie à l'ouvrage de Maxime Tandonné, André Tardieu, l'incompris, un ouvrage publié en 2019 chez Perrin.
Henri Guénaud, est-ce que nos institutions aujourd'hui, celles de la Ve République, sont adaptées aux crises auxquelles on est confronté?
Oui, je crois que les institutions sont adaptées, mais elles ont été, comme tout ce qui concerne l'État, elles ont été beaucoup abîmées. Alors, il y a un instant sur cette idée, l'exécutif a tous les pouvoirs. L'exécutif a tous les pouvoirs dans un régime parlementaire. La Ve République est un régime parlementaire, ça c'est pas De Gaulle qui l'a inventé, l'influence de Michel Debré a beaucoup joué, la Ve République a été construite comme un compromis entre le régime présidentiel et le régime parlementaire, mais elle reste fondamentalement un régime parlementaire. Dans un régime parlementaire, le chef de l'exécutif est le chef de la majorité parlementaire. Voilà. Et donc il n'y a pas de... c'est le système dans lequel il n'y a pas de vraie séparation en réalité entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Celui qui la séparation la plus forte, elle est opérée dans un système purement présidentiel comme les États-Unis. Voilà. Mais à ce moment-là, ça suppose qu'il puisse y avoir des compromis permanents entre le Congrès et le président. On a vu que c'était pas toujours le cas. Et en France, ça le serait sans doute beaucoup moins. Donc les institutions sont les meilleures qu'on ait pu avoir depuis longtemps, mais on les a démolies notamment avec le quinquennat. Voilà. Et avec la montée du ce que j'appellerais le gouvernement des juges, ou la pente vers le gouvernement des juges, qui fait aujourd'hui que la loi, elle n'est pas faite au Parlement pour l'essentiel, elle est faite par les juridictions, qui remplissent les vides que laissent les parlementaires ou les flous.
Avec un conseil constitutionnel qui fut quand même créé en 1958.
Non, mais le conseil constitutionnel a été créé, mais
pas... Il n'avait pas les mêmes...
Il a été créé pour préserver l'exécutif des empiétements du Parlement. Là aussi, c'est quelque chose sur lequel il va falloir s'interroger. Je pense notamment à ce qui vient d'arriver à Dupond-Moretti. Mais il y a une question sur qui gouverne, qui fait quoi, qui décide après beaucoup de réformes et de dérives de notre système institutionnel depuis 40 ou 50 ans. Voilà, on peut pas dire que ça marche, que ce qu'on a créé en 58-62 ne marche pas alors qu'on l'a détruit. Et d'autre part, les institutions, même les meilleures du monde, elles marchent différemment selon ceux qui sont à la tête de l'État et de ses institutions.
Merci Henri Guénaud d'avoir participé à ce numéro de Politique. Émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par François Connac avec à la prise de son Sylvain Latu. Émission à écouter, télécharger sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.